Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, vivre au camping à l'année, une autre dimension du mal-logement. Habiter dans une caravane ou un mobile home sur un terrain de camping, loué donc toute l'année, non pas pour vivre des vacances, mais pour en faire son domicile, son chez-soi, comme une solution à la flambée des prix de l'immobilier. En France, premier parc européen de camping de loisirs à l'origine, eh bien cet habitat à l'année concernerait plus de 100 000 personnes. Que signifie donc au quotidien vivre dans un camping résidentiel ? Par exemple, au cœur de l'hiver, en région parisienne, sans eau courante. Qui sont ces personnes? Quelle est la part de choix, de résignation ou de relégation sociale? Un sociologue a enquêté en immersion sur ces classes populaires très mal connues. Bonjour Gaspard Lyon.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université Sorbonne Paris Nord. Vous publiez un livre lumineux et sobre, « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires » aux éditions du Seuil. Loin des clichés sur la pauvreté, vous posez aussi de vraies questions politiques sur le rôle de l'État et des communes dans ce mal logement. En Europe, le logement au camping est très répandu, notamment au Royaume-Uni aussi. Et au sein de l'Union, en Suède, en Grèce. Mais historiquement, on verra le cas des États-Unis, où plus de 20 millions de personnes vivent dans des mobile homes, dont plus de la moitié dans des terrains de camping, soit 7% de la population, avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala, en Californie. C'est un des États emblématiques pour les trailer parks, comme on dit. En deuxième partie d'émission, reportage à Tunis de notre correspondante Amira Souilem, au cœur d'un restaurant solidaire qui distribue des repas pour pallier à la fois l'inflation, la crise économique et le délitement de l'entraide familiale.
8 milliards de voisins.
On se dit on est nombreux, mais
c'est une grande famille.
Oui, la vraie famille.
Voilà, pour nous c'est ça. C'est une grande famille.
Oui, une grande famille, mais avec des conditions de logement très, très, très différentes hein, tout autour de la planète. Gaspard Lyon, vous êtes sociologue. Vous avez enquêté pendant près de 10 ans sur ces habitants qui vivent dans des campings résidentiels en France, c'est-à-dire ni dans un appartement, ni dans une maison. Et vous-même, vous avez habité dans une caravane sur des périodes de plusieurs mois, au total sur 3 ans. Pourquoi ?
Pourquoi j'ai enquêté de cette façon-là ?
Oui.
Ouais. C'était une façon de prendre de la distance vis-à-vis des discours assez surplombants qui existent sur l'habitat non ordinaire de manière générale et sur le camping résidentiel en particulier. Des discours qui sont souvent très connotés négativement. Mmh.
Des marginaux.
Oui, enfin tout un ensemble de qualificatifs qui font signe vers un registre plutôt misérabiliste, on peut dire. C'est-à-dire une appréhension uniquement négative en termes de contraintes, d'inadéquation, d'inconfort, d'insécurité, etc. Où on met l'accent uniquement sur les difficultés résidentielles et ces personnes sont elles-mêmes décrites comme appartenant finalement toutes à l'extrême pauvreté, vivant leur situation uniquement sous l'angle du stigmate, de la honte, de l'humiliation. Et donc l'idée, c'était d'essayer de prendre de la distance vis-à-vis de ces discours pour comprendre comment les situations étaient vécues par les personnes elles-mêmes, quels étaient leurs parcours, qu'est-ce qui les avait conduits à s'installer, à vivre à l'année dans un terrain de camping et à partir de quel cadre d'appréciation elles évaluaient leur situation au camping, quel sens elles donnaient à leur situation, comment elles s'organisaient au quotidien pour faire face aux difficultés et quelles pouvaient aussi être les formes d'appréciation qu'elles pouvaient trouver à vivre à l'année dans un terrain de camping.
Quand on parle de vivre à l'année dans un terrain de camping, en termes de logement, de quoi on parle exactement ? Parce qu'il y a des photos dans votre livre et on voit bien que ça va du mobile home très confortable. Bon, bien sûr, il y a la télévision, il y a l'électricité, mais il y a aussi un petit coin sanitaire, douche, etc. À des caravanes qui sont presque à la limite du bidonville. Hein. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Il y a effectivement une grande diversité de situations résidentielles. C'est-à-dire vous trouvez à la fois des campings haut de gamme, avec des personnes qui vont investir des mobil-homes également en bon état, pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des mobil-homes confortables, avec un accès à tous les éléments du confort de base qu'on trouve dans un appartement aujourd'hui en France, un logement en France, standardisé. Et des personnes qui, à l'inverse, sont dans des campings beaucoup plus dégradés, des campings sans étoiles, donc plus bas de gamme, plus accessible et dans des caravanes souvent, parfois dans des mobil-homes, mais souvent dans des caravanes et dans des caravanes dégradées, donc une superficie beaucoup plus faible, en moyenne c'est une dizaine de mètres carrés pour ces personnes, et surtout des personnes qui vont être privées notamment de l'eau, l'hiver, hein, qui est coupé entre novembre et avril. Donc la nécessité d'aller dans les sanitaires communs pour pouvoir, pouvoir s'alimenter en eau, pour pouvoir se doucher, pour pouvoir cuisiner, etc. Ouais.
À la diversité de ces logements, est-ce qu'on peut dire qu'ils correspondent finalement à un public aussi très diversifié ?
Effectivement, il y a une vraie diversité en termes de profils, hein, de profils sociaux dans ces terrains de camping, malgré le fait que ces personnes appartiennent néanmoins à un ensemble, c'est-à-dire elles ont quand même des propriétés fortes en commun, notamment le fait qu'elles appartiennent aux classes populaires, c'est-à-dire c'est des ouvriers, des employés ou des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui vivent dans ces terrains de camping. Et au sein de cette catégorie classe populaire, effectivement, il y a une diversité de parcours, de profils, de trajectoires, des personnes qui sont en emploi, qui peuvent occuper des emplois stables, d'ouvriers ou d'employés, et qui ont finalement décidé même de quitter le parc locatif, qui auraient pu s'y maintenir, et d'autres personnes, à l'inverse, qui sont dans des situations de fragilité sociale plus prononcées,
donc des gens au chômage,
plus précaires, des personnes au chômage.
Des hommes, des femmes seules.
Oui, des personnes qui vivent des prestations sociales, ou qui sont sans ressources, qui vivent uniquement des dons et contre-dons, des formes de débrouille, à l'échelle notamment du camping, avec du travail à côté, non déclaré, des formes d'entraide, voilà, différentes manières qui sont déployées pour faire face à la pauvreté qui caractérise une partie de ces résidents et résidentes.
En tout cas, on peut dire que le point commun dans les logements, puisqu'on a vu que ce sont des logements très différents, mais c'est quand même l'exiguïté des logements. Il y a une jeune fille, une adolescente qui témoigne dans votre livre, elle vit là avec sa sœur et son père, et elle dit « Avant, moi, dans ma vraie maison, j'avais ma chambre. » Et puis, beaucoup de gens disent aussi « Moi, je viens de la campagne et j'ai toujours vécu dans des grandes maisons. » Et là, c'est tout petit, même dans un mobil-home. Hein, on a à peine passé le pas de la porte qu'on se heurte au premier meuble ou au lit ou à la table finalement. Et toutes ces personnes-là, on va le voir, ça peut être un libre choix, mais c'est souvent quand même un choix contraint.
Alors il y a effectivement une part de contrainte qui est importante pour toutes ces personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, quand bien même elles pouvaient se maintenir dans le parc locatif, finalement ça reste un choix par défaut, un choix contraint. Elles auraient voulu accéder par exemple à une maison ou un pavillon, et elles se replient sur le camping faute d'y accéder. Donc ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, effectivement, c'est des personnes qui ont des marges de manœuvre sur le plan résidentiel, qui sont étroites ou très étroites, en tout cas plus étroites que pour des catégories de personnes qui appartiennent aux classes moyennes ou supérieures. Mmh. Après, ce que vous soulignez dans l'appréciation, par exemple, du mobil-home ou de l'habitat, c'est en fait ce que montre l'enquête, ce que je cherche à montrer dans le livre, c'est notamment le poids des expériences résidentielles antérieures dans la manière dont on va s'investir dans cet habitat. Là, vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui était en maison, donc pour qui, effectivement, l'arrivée dans un mobil-home de 30 mètres carrés
peut être vécu comme un déclassement.
Ouais. Pour d'autres personnes, ça peut être vécu au contraire comme une amélioration finalement de leur situation. Hein. Des personnes qui ont vécu dans d'autres formes de logements dégradés auparavant ou dans des squats, l'hébergement contraint par des amis ou des tiers. Des personnes qui ont connu la rue même, pour qui là c'est clairement une amélioration tangible de leur situation, le rapport à l'habitat va être tout différent. Hein. Ce sont des personnes qui à l'inverse vont s'investir dans l'habitat, vont chercher à l'améliorer, à le transformer, et ils vont y trouver en fait un certain nombre de satisfactions qui sont liées à ces trajectoires antérieures qui sont pas les mêmes que celles des personnes qui vont le vivre comme un déclassement.
Ce qui est parfois stupéfiant dans tous les témoignages que vous avez recueillis, hein, c'est-à-dire plus de 75 témoignages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent là depuis des années, 10 ans, 8 ans, enfin, vraiment sur des très longues périodes dans ces campings résidentiels qui ne sont ni des maisons ni des appartements, je le répète. Vous restez avec nous, Gaspard Lyon, vous allez nous expliquer aussi quelle est vraiment la part de choix, d'accident de la vie, d'absence aussi de politique de logement qui pousse des personnes à habiter dans ces campings, et puis surtout à quel prix. Parce que c'est pas si économe que ça d'habiter dans un camping résidentiel, alors que ce sont des personnes de classe populaire. Et on va aussi comprendre l'ampleur du business du mal logement aux États-Unis. Ce sera juste après la Somalienne Sarah Algan, choix de la playlist RFI.
Bye. sar ankula madode
RFI, 8 milliards de voisins, on s'intéresse aujourd'hui aux campings, ceux qui vivent dans ces campings résidentiels, c'est-à-dire à l'année, un mal logement des classes populaires. C'est votre enquête, Gaspard Lyon, vous êtes sociologue. Vous le disiez en introduction d'émission, en réalité, dans ces campings résidentiels, on trouve aussi bien des caravanes qui sont à la limite du bidonville que des mobil-homes qui sont très acceptables, très relativement confortables. Néanmoins, les personnes qui habitent dans ces lieux sont souvent des gens qui ont eu des trajectoires familiales, professionnelles, économiques compliquées et qui appartiennent grosso modo à ces classes populaires, mais finalement des classes populaires très peu étudiées dans ces campings résidentiels, alors que ça concerne quand même plus de 100 000 personnes en France. Selon la Fondation Abbé Pierre, on a plus de 16 millions de personnes qui sont victimes de la crise du logement en France, c'est-à-dire manque de logement à un prix accessible pour les bas salaires. Dans quelle mesure les personnes qui vivent dans ces campings résidentiels sont des personnes, vous le disiez, qui n'ont pas pu, par exemple, accéder à un prêt immobilier pour acheter leur pavillon, leur maison, mais dans quelle mesure sont aussi des gens qui n'ont pas pu accéder à un logement social, à un HLM, ou dans quelle mesure sont des gens qui, au contraire, veulent être libres de choisir ?
Alors, ce sont toutes des personnes qui, effectivement, font les frais de la crise du logement, de son élargissement, qui touche de plus en plus de personnes, dont les manifestations sont de plus en plus diversifiées et de plus en plus violentes. Vous avez cité le chiffre de 16 millions de personnes marquées aujourd'hui à des degrés divers par la crise. On pourrait parler aussi, citer le chiffre des personnes sans domicile, qui a doublé en l'espace de 10 ans, plus de 330 000 personnes aujourd'hui en France. Donc, en fait, ces personnes qui investissent les terrains de camping, elles les investissent de différentes façons. Suivant aussi leur propriété sociale. On l'a dit, elles sont pas issues des mêmes fractions des classes populaires. Pour certaines personnes, en fait, investir dans un terrain de camping, c'est une manière de devenir propriétaire faute d'accéder à un pavillon ou une maison, ce qui témoigne en fait des difficultés croissantes aujourd'hui pour les classes populaires à accéder à l'habitat individuel et à la propriété.
Contrairement aux ouvriers autrefois.
Voilà, c'est vraiment un mouvement qui s'est refermé, c'est ce mouvement de diffusion de la propriété au sein des classes populaires qui s'est refermé à partir de la seconde moitié des années 80 et qui est rendu structurellement de plus en plus difficile depuis les années 2000. Donc là, vous avez ces symptomatiques de la crise, la présence finalement de personnes en emploi qui investissent des terrains de camping. Et puis, un autre élément qui est symptomatique de la crise du logement, de son élargissement, c'est toutes les personnes qui sont dans ces terrains de camping et qui vivent comme un déclassement social et résidentiel. En fait, c'est des personnes qui sont en emploi, qui sont insérées dans le marché de l'emploi et qui, aujourd'hui, du fait de la conjoncture immobilière, du fait que ça touche de plus en plus de personnes, y compris des personnes issues des classes moyennes, peuvent se retrouver en grande difficulté de logement.
Alors qu'ils sont payés le SMIC.
Voilà, alors qu'ils ont un salaire, parfois même plus que le SMIC, mais du fait d'une, voilà, d'une rupture biographique, telle une séparation ou un divorce, et qui vont se retrouver dans l'impossibilité de retrouver un logement dans le parc locatif ordinaire, ou bien un logement qui soit adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Et puis, vous trouvez enfin, ce que je disais tout à l'heure, des personnes plus précarisées, ce qui témoigne aussi des transformations structurelles de la société française, à la fois la précarisation du monde du travail, le démantèlement progressif des systèmes de protection sociale, des protections sociales attachées à la société salariale, et la disparition progressive en France aussi des logements qu'on pouvait qualifier de parc social de fait, en fait, c'est-à-dire des logements qui sont souvent vétustes, insalubres, anciens, mais qui étaient accessibles aux classes populaires. Donc il y a effectivement un mouvement de fermeture des possibles pour les classes populaires dans le parc ordinaire, ce qui explique pour une part voilà, le développement très important du camping résidentiel aujourd'hui
en France.
Des
campings résidentiels parce qu'on est, rappelons-le encore en France, dans le premier parc européen de campings résidentiels, qui sont en fait au départ des campings de tourisme, hein, mais et d'ailleurs juridiquement ils n'ont pas forcément le droit de se transformer en camping résidentiel, mais il n'y a pas beaucoup de contrôle. Tout de suite, on part dans quelques instants direction côte ouest des États-Unis pour essayer de comprendre à quel point le phénomène est très ancien aux États-Unis et très ancré surtout.
8 milliards de voisins. Oh. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Machas violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Et tout de suite, direction la côte ouest des États-Unis. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Los Angeles, en Californie. Nous sommes dans un pays où plus de 20 millions de personnes vivent dans des trailers parks, c'est-à-dire des camps qui peuvent accueillir des mobilhomes ou des camping-cars. Ce sont des images d'ailleurs qui sont très présentes, hein, dans les films, dans les séries comme Ozark sur Netflix récemment.
Il y a près de 45 000 trailer parks, hein, à travers les États-Unis. C'est beaucoup plus que dans le reste du monde. Chez le voisin canadien, le deuxième pays des trailer parks, on ne dépasse pas les 5 000. En Caroline du Sud, 16% de la population vivrait dans des mobilhomes. C'est d'ailleurs un mode de logement très associé dans l'imaginaire collectif au sud des États-Unis. Et puis il y a ce stigmate de la pauvreté, de la saleté. On se moque des trailer trash, hein, les caravanes poubelles. Alors pourquoi ces maisons mobiles ont-elles tant de succès dans le pays le plus riche du monde? L'histoire, l'expérience, en partie avec les migrations internes lors de la Grande Dépression des années 30. Charles Baker, un professeur d'économie à l'université de Duke, explique aussi à la BBC qu'en Europe, où les transports publics sont développés, on peut vivre pauvre en centre-ville, entre guillemets. Les Américains ont peut-être aussi un peu plus que les autres le rêve de la propriété. Ces mobilhomes permettent de réaliser ce rêve à moindre coût, sans parler du fantasme de la liberté à l'américaine, celle du mouvement et des grands espaces. L'Amérique du Nord en représenterait plus de la moitié du marché mondial des camping-cars. 1 million d'Américains vivraient justement dans un camping-car.
Et en Californie, où la crise du logement a frappé très fort ces dernières années, notamment depuis la crise de 2008, est-ce que ces trailer parks sont perçus comme une solution ?
Alors c'est vrai que la situation de l'immobilier est très tendue ici, hein, dans l'État le plus riche et le plus peuplé de l'Union. Pourtant, la Californie a perdu des centaines de milliers d'habitants ces dernières années, en partie parce que s'y loger devient trop compliqué. Mais le différentiel entre l'offre et la demande reste énorme, ce qui implique des loyers prohibitifs et un accès à la propriété ardu, voire impossible, hein, pour certaines familles. 210 des 550 million dollars cities, ces villes du pays où le prix médian d'une maison dépasse le million de dollars, se trouvent en Californie. Le nombre de sans-abri, lui, continue de croître. 75 000 personnes, rien qu'à Los Angeles, où le loyer moyen flirte avec les 3 000 dollars. On estime qu'un peu plus d'1,5 million de Californiens vivent dans les 5 000 trailer parks de l'État, des Californiens généralement plus pauvres et âgés que la moyenne, alors qu'un grand nombre de ces parcs n'ont pas été inspectés en profondeur par les autorités depuis des années. Mais à Santa Cruz, au nord de l'État, au bord du Pacifique, l'université locale possède elle-même un trailer park avec 42 emplacements. Pour beaucoup d'étudiants, les loyers dans la région sont intouchables. Hein. Et à l'opposé, à Malibu, Paradise Cove, un trailer park de luxe avec terrain de tennis et plage privée, attire des stars comme Matthew McConaughey. Mais c'est une exception, évidemment.
Et pour ceux qui investissent dans ces trailer parks, il y a des spéculations immobilières, foncières ?
Oui, parce que le risque financier reste limitée. En fait, vous louez le terrain aux propriétaires des mobilhomes qui n'ont pas vraiment de droit de regard sur l'infrastructure que vous mettez en place, hein, l'eau, l'électricité. De grands groupes détiennent des dizaines de ces parcs dans le pays avec des retours sur investissement atteignant parfois les 30%. Il existe même une Mobile Home University, un séminaire pour ceux que le marché intéresse. Le Guardian raconte l'histoire d'une manager d'un trailer park en Floride, l'État qui en abrite le plus. Elle avait choisi de n'accueillir que des personnes condamnées pour crimes sexuels. Ces personnes n'ont pas beaucoup d'autres options pour se loger à leur sortie de prison, donc elles payent en général leur loyer à temps. Et puis la surveillance plus ou moins directe de la police, des médias et de la société en général garantit une forme de sécurité. Construire ces mobile homes est également un marché attractif. L'un des géants du secteur, critiqué pour ses méthodes parfois douteuses, s'appelle Clayton Homes et fait partie du portefeuille de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde.
Merci Loïc Piala, l'un de nos correspondants aux États-Unis. Gaspard Lyon, vous signez Vivre au camping, un mal logement des classes populaires. Vous avez enquêté en vivant vous-même dans une caravane sur des périodes différentes sur près de 3 ans. Votre enquête a duré près de 10 ans. Comment voyez la situation qui peut sembler très extrême aux États-Unis ?
Comment je la vois, oui. C'est-à-dire par rapport à la France,
oui.
Ou...
Et notamment par rapport à ces spéculations immobilières, en fait, sur ces terrains, puisque, rappelons-le, donc, en France, c'est la même chose. Les gens qui vivent en mobilhome ou en caravane, ils peuvent être propriétaires de leur mobilhome ou de leur caravane, mais pas du terrain sur lequel ils ont posé leur maison mobile.
En effet, oui, en réalité, il y a pas mal de points communs entre les deux situations, même si la situation américaine est beaucoup plus ancienne, hein, comme il l'a été rappelé. Mais ce que je dirais, c'est que les points communs, ils se situent notamment du côté des mécanismes qui ont conduit au développement de la situation. Hein, aux États-Unis, c'est notamment la paupérisation sociale, l'augmentation des inégalités socio-économiques et le désinvestissement par la puissance publique de la question du logement, et notamment du logement à bas coût pour les classes populaires. Hein, et par ailleurs, un parc de loisirs très abondant, à l'instar de la situation française.
Hein. Est-ce qu'en France, il y a des fonds d'investissement qui investissent massivement sur les terrains de camping résidentiels ?
Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands groupes de l'hôtellerie de plein air, alors qui investissent plutôt des terrains de camping pas dédiés uniquement à l'habitat permanent mais pouvant accueillir des résidents à l'année et qui aujourd'hui délogent ces résidents pour y attirer une clientèle plus solvable, plus rentable, donc des personnes qui les utilisent pour leurs loisirs ou pour le tourisme. Donc on a de plus en plus de résidents à l'année effectivement qui sont expulsés de ces terrains et pour des raisons que vous avez commencé à esquisser, à savoir le fait qu'ils sont propriétaires de leur habitat mais pas du foncier. Et ça, c'est une situation qui est commune avec les États-Unis, en fait, avec tous les pays pour lesquels on dispose d'informations, le Canada, l'Australie, l'Angleterre, la Belgique, etc., où il y a effectivement aussi du camping résidentiel. Ce sont des personnes il y a une dissociation entre le foncier et l'immobilier. Et ce qui fait qu'elles sont en fait très peu protégées juridiquement face à des expulsions. Elles sont expulsables beaucoup plus facilement. Un gérant peut décider en fait quasiment du jour au lendemain de mettre fin à ses occupations.
Contrairement à des locataires qui sont plus protégés par la loi, en tout cas en France.
Oui, c'est ça, qui disposent en France d'un bail locatif, hein, avec un certain nombre de droits et de garanties qui sont associés. Dans les terrains de camping, ces résidents en fait, sont privés de tous les droits, toutes les garanties qui sont attachées à la forme du logement standardisé. Hein, ils sont situés en fait en dehors du droit commun, droit commun locatif. Donc ils sont privés des APL, ils sont privés du principe de la trêve hivernale.
L'aide sociale au logement. Hein,
Des aides au logement, des aides personnelles au logement. Ils sont privés de la possibilité d'avoir des aides du Fonds de solidarité logement qui aident par exemple des ménages en situation de précarité sur le plan énergétique.
Ce qui veut dire que s'ils habitent, pour des personnes qui habitent dans un mobile home très mal isolé, ils vont avoir des factures d'électricité. Il y a des témoignages qui disent « mais j'ai 300 euros d'électricité par mois pour une caravane ».
Voilà, ça peut donner lieu à ce type de pratique. Alors, c'est pas le cas de tous les résidents, hein, mais il y a effectivement des terrains de camping dans lesquels, notamment, vous avez des propriétaires de ces terrains qui vont revendre l'électricité à des tarifs supérieurs à ceux du fournisseur. Hein, et donc, les témoignages que vous avez cités renvoient notamment à la situation de personnes qui ont investi dans des caravanes ou des mobilhomes très dégradés et effectivement qui font les frais de ces pratiques des gestionnaires.
Mais les caravanes qui ne sont pas considérées comme un domicile, donc vous le disiez, donc pas d'aide sociale au logement, on est dans un angle mort en fait de la classe populaire là, mais qui concerne 100 000 personnes.
Il y a un vide juridique, on pourrait le dire de cette manière-là, en tout cas qui est investi par les propriétaires des terrains de camping, et au sens où la législation législation actuelle qui relève du droit du tourisme est en fait très peu protectrice pour les résidents et permet aux propriétaires de mettre en place tout un ensemble de pratiques, d'édicter des règlements intérieurs, par exemple, avec des pratiques qui n'ont aucun équivalent dans le parc ordinaire, des pratiques qui peuvent être abusives. Des gérants qui vont, par exemple, sommer ses résidents, à les contraindre à déclarer des visites extérieures, faire payer pour ces visites. Qui peuvent également contraindre les résidents à racheter un mobil-home au bout de quelques années sur place, quand ces propriétaires ont des liens avec des entreprises de vente de mobil-home ou touchent des commissions ou ont leur propre société de vente. Des pratiques qu'on retrouve aussi aux États-Unis par ailleurs.
Ces gens-là, du coup, vont racheter des mobil-homes d'occasion, souvent en pas très bon état et plus cher que le reste du marché. C'est-à-dire que...
Alors, plutôt des mobil-homes neufs sur place. Vendu par ses propriétaires
mais
de terrain.
Mais plus cher que s'il s'était adressé à un marché hors...
Pas nécessairement plus cher, mais en tout cas, c'est des personnes qui avaient investi dans un mobil-home, qui potentiellement s'étaient endettés sur 10-15 ans, avec un mobil-home confortable en l'état, et qui vont être effectivement contraintes, ces personnes, de racheter un mobil-home neuf au bout de quelques années, ou alors de quitter le camping. Et en fait, ce qui se produit pour ces personnes souvent, c'est la perte de leur habitation. Parce qu'en fait, déplacer un mobil-home ou une caravane, dans la plupart des cas, c'est rendu très difficile. À la fois parce que ces personnes autoconstruites sur place ont des aménagements qu'on ne peut pas déplacer facilement. Pour un mobile home, il faut faire venir un convoi exceptionnel, c'est plusieurs milliers d'euros. Et puis, il faut trouver un terrain de camping qui, dans l'urgence, vous accueille, dans lequel il n'y a pas des listes d'attente de plusieurs années, comme c'est le cas souvent dans ces terrains de camping, et avec des gérants qui ne pratiquent pas des droits d'entrée, parce que souvent, ce que font ces gérants, c'est qu'ils font payer quelques milliers d'euros l'installation et ensuite le paiement d'un loyer. Ouais.
Ce qu'on comprend dans ce que vous expliquez, dans les témoignages qui sont relatés dans votre enquête, Gaspard Lyon, c'est que finalement, ces gens sont complètement piégés par une société, par une inflation de l'immobilier auquel ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas accéder non plus à un parc de logements sociaux sur lesquels ils pourraient ensuite acquérir leur maison. Il y a des programmes comme ça qui existent en France, trop peu nombreux, où on est locataire et au fil des années, on devient propriétaire de sa maison. Là, on voit que c'est de l'argent qui part par les fenêtres et à la fin, c'est toujours le retour de la précarité finalement.
En tout cas, c'est disons que ces effets-là vont varier une fois encore en fonction des profils. Mais pour des personnes effectivement qui avaient investi toutes leurs économies dans un mobil-home, c'est potentiellement la perte de ces économies le jour où le gérant décide de mettre fin à cette occupation. Il y a une épée de Damoclès qui pèse sur les épaules de ces résidents. C'est-à-dire que ils peuvent en fait, ce qui caractérise cette situation, c'est une situation d'incertitude. Une forme de révocabilité permanente. Alors, ça ne veut pas dire que dans les faits, ces personnes vont être expulsées au bout de quelques années. Certains, vous l'avez rappelé, ils sont depuis 30, 40 ans, depuis des décennies. Mais néanmoins, voilà, ce risque existe. Et à ce moment-là, s'il se manifeste, s'il se concrétise, ces personnes ont très peu de garde-fous, ont très peu de support pour y faire face et risquent de perdre ce qui constituait leur patrimoine. Donc, c'est symptomatique des inégalités aujourd'hui en France, dans l'accès au logement, dans l'accès au patrimoine, dans l'accès à la propriété. Et effectivement, pour des classes populaires qui ne peuvent plus accéder à la propriété, ces personnes se tournent vers ces formes de logements qui apparaissent assez dégradées à un certain nombre d'égards.
Alors, vous avez voulu faire une enquête qui soit tout sauf misérabiliste, mais ancrée dans la réalité. Donc, on l'a vu, il y a tous ces côtés très négatifs de cet habitat relativement précaire, mais il y a aussi, quand il fait beau, puisque vous avez enquêté essentiellement en région parisienne, c'est là qu'on trouve le plus de parcs de camping résidentiel. Quand il fait beau, on est près d'un étang, on fait des barbecues, on se retrouve pour pêcher dans l'étang. Il y a des sociabilités, il y a des petites fêtes. Il peut y avoir aussi une vie très agréable, même une vie modeste, mais très agréable. Dans quelle mesure ce type d'habitat conditionne la façon dont on trouve sa place dans la société ou pas? Comment on est perçu quand on habite en caravane ou en mobil-home par l'extérieur?
Il y a la question, effectivement, la perception par autrui, à l'extérieur... Qui renvoie directement à la question du discrédit social.
Comment on invite des collègues de travail, par exemple, ou des copains de classe, des enfants?
Alors, en fait, une fois encore, ça va vraiment dépendre de l'expérience du logement, de l'habitat. Comment l'habitat est perçu par les personnes. Et cette appréciation, elle va vraiment différer en fonction des propriétés sociales des personnes, donc leurs ressources sociales, économiques, et surtout de leur passé. Et notamment de leur passé résidentiel. Pour des personnes pour qui, comme je le disais, le passé a été ponctué d'épisodes de pauvreté plus ou moins prolongés, qui ont connu des situations de logement dégradé, souvent c'est vécu comme une forme de logement parmi d'autres, une forme de mobilité horizontale pour ces personnes.
Et donc ils sont bien dans leur basket.
En fait, en tout cas, elles investissent positivement, souvent très fortement positivement, même leur habitation. Elles sont dans la débrouille, elles vont récupérer des choses aux encombrants. grands sur place pour améliorer leur situation. Et puis, elles vont effectivement apprécier de retrouver pour beaucoup, en fait, une forme d'habitat individuel, un habitat individuel avec une parcelle de jardin qui leur rappelle leur socialisation enfantine, des personnes qui ont grandi dans des maisons ou dans des pavillons et qui vont pouvoir bricoler, qui vont pouvoir jardiner, qui vont pouvoir pêcher. Donc, ils vont pouvoir s'adonner à des pratiques, à des activités populaires auxquelles elles sont attachées. Hein, ça leur permet, au-delà même de l'habitat, finalement, de déployer un style de vie populaire auxquelles ces personnes sont attachées, et elles sont inscrites dans ces réseaux de sociabilité qui les renvoient à une image beaucoup plus positive que celle que peut leur renvoyer la société. Hein, des formes d'identité positives, alternatives, qui sont reconnues par les groupes de
faire. Les bobos, mais non choisis, on pourrait dire, hein, quand même. On reste dans les classes vraiment populaires, mais juste en quelques mots, Gaspard Lyon, quelles sont les vraies questions politiques qui se posent à l'issue de votre enquête ?
C'est la nécessité d'intervenir à deux niveaux, c'est-à-dire intervenir à la fois du point de vue de la régulation de ces pratiques, encadrer le camping résidentiel, mais surtout ouvrir des droits et des garanties à toutes les personnes qui investissent des habitats non reconnus par la puissance publique comme des logements. Donc ça vaut pour ces personnes, mais ça vaut pour beaucoup de personnes en France. Hein. Je pense notamment à la situation des gens du voyage, hein, qui sont entre 250 000 et 400 000 personnes aujourd'hui, et dont qui sont également privés des APL, du principe de la trêve hivernale, enfin, privé en fait de tous les droits associés au bail locatif, au logement standardisé. Et puis l'autre niveau d'intervention nécessaire, c'est celui de la régulation du parc privé, hein, l'encadrement des prix du logement, et puis une intervention beaucoup plus forte de la puissance publique en matière de construction de logements sociaux et en matière de lutte contre la spéculation immobilière et foncière.
Merci beaucoup Gaspard Lyon. Il faut lire votre livre « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires ». Merci d'être passé chez 8 milliards de voisins.
Merci à vous.
Dernière partie d'émission dans quelques instants, ce sera un reportage à Tunis de notre correspondante Amira Souilem, au cœur d'un restaurant solidaire qui distribue des repas pour pallier la crise économique, le délitement de l'entraide familiale. Mais tout de suite, Nawel Benkrayem, Fête secrète, c'est le titre de sa chanson.
Et je voudrais fêter d'avoir survécu une fête secrète comme personne n'a su. Les trous dans mes bras, l'anesthésie de la foi, les émotions violettes sous mon vieux survêt. Eh, je voudrais fêter d'avoir survécu. Personne ne le saura, mais ça sentira les rires et l'éclat jusqu'à Malaga. Personne ne le saura, mais ça sentira les rires et l'éclat jusqu'à Malaga. Les arbres centenaires, les vitamines qui poussent, qui naissent et qui s'expriment. Ils veulent la flamme adolescente. Les chants que rien ne réprime. Les flammes, les femmes que rien ne comprime.
8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. Nous sommes en Tunisie maintenant, où l'inflation, les pénuries de denrées de base rythment le quotidien des habitants, dans un pays où la solidarité familiale est un pilier fort de la société. Eh bien, c'est surtout dans la capitale, Tunis, que le phénomène des sans-abri a fait son apparition ces dernières années. Amira Souelem est allée à la rencontre d'une équipe de volontaires qui leur vient en aide. Ils ont lancé à Tunis, il y a 3 ans, un restaurant un peu particulier, le Resto d'Amour, qui accueille des personnes sans-abri, mais pas seulement.
Ah, ça va, ça va. Bonjour, Eva.
Donc, vous êtes dans le Resto d'Amour, c'est une première en Tunisie. Un restaurant qui est à la fois commercial et caritatif.
Et là devant moi, j'ai un des bénévoles qui est en train d'écrire le menu du jour et d'inscrire aussi les tarifs. Donc le vendredi, c'est toujours un petit peu particulier en Tunisie. C'est le jour de la grande prière et c'est un jour où on aime bien manger justement. Alors là, il y a devant moi 6 dorades qui sont en train de griller très tranquillement.
Donc aujourd'hui, on a couscous. Il y a aussi kamouneya. Donc il y a les plats tels que escalope, kebab, poisson. Donc ce sont les plats de tous les jours. Généralement, on prépare une quantité pour 100 de personnes. Parce que le couscous, ce n'est pas uniquement pour les clients, disons, mais on peut les servir aussi aux SDF. Donc chaque SDF a le droit de venir et de prendre tout ce qu'il veut donc, par rapport au plat. Vous allez découvrir un concept très original.
En fait, le concept, si je résume, c'est ça. C'est si vous avez les moyens, vous payez. Vous n'avez pas les moyens, vous ne payez pas.
Oui, pour toute personne qui n'a pas les moyens de payer, donc il peut venir et prendre des plats gratuitement.
Et alors si je devais vous présenter à nos auditeurs, qu'est-ce que je dirais ? Est-ce que si je dis que je suis avec Hiba, une petite 30aine d'années, docteur en informatique, professeur dans un institut de gestion, c'est ça, je ne me trompe pas ?
C'est ça, et la cofondatrice de l'Association Universelle, secrétaire générale.
Et alors Hiba, ce qui est un peu étonnant, enfin en tout cas pour moi d'un point de vue extérieur, c'est de savoir que vous êtes prof dans un institut de gestion. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ou paradoxal de passer une partie de ces journées dans cet institut de gestion où on apprend à maximiser les profits et puis le reste du temps d'être ici et mettre en œuvre la solidarité de façon très concrète? Comment vous jonglez de l'un à l'autre, vous?
En fait, pour moi, ce n'est pas trop paradoxal parce que l'un peut enrichir l'autre. Comme vous le savez, donc, les étudiants doivent de nos jours exercer ce genre d'activité parce que ça devient une obligation au niveau de CV. Donc chaque étudiant doit avoir au moins une partie de sa vie qui a été dédiée à la vie associative. Donc après avoir terminé le cours, donc on commence à échanger quelques idées, quelques expériences. Concernant le Resto d'Amour, ils ont déjà participé pas mal de fois au Maraude avec nous, donc je les ai invités pas mal de fois à la distribution et tout ça.
Donc là, il y a Oussama qui est en train de sortir le commis de cuisine, les toutes premières assiettes. Voilà, on se prépare à recevoir les tout premiers clients. Il est bientôt midi.
En fait, ça, c'est la salle à manger donc, dans laquelle les clients peuvent s'asseoir et tout ça.
Et moi, la dernière fois que j'étais venue manger chez vous, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient en costume cravate. Et juste derrière eux, j'avais l'impression de voir un monsieur qui avait l'air d'être sans abri. C'est ce genre d'image que vous voulez voir au quotidien, vous ?
Un SDF, c'est un être humain, donc il a le droit de prendre des repas comme n'importe quelle autre personne. Donc c'est la même chose. Par contre, l'un peut aider l'autre. Donc c'est ça l'image qu'on voulait transmettre aux autres.
Mais c'est unique à Tunis. Moi, j'avais jamais vu ça avant, des employés en costume cravate et juste derrière eux, un monsieur qui était sans abri. Les classes sociales sont quand même très cloisonnées à Tunis. C'est assez unique, non, votre lieu de ce point de vue.
Cette image-là, vous ne pouvez pas la voir ailleurs. Donc c'est une image qui est exclusive à nous.
Alors là, au moment où je vous parle, il y a à peu près une dizaine de clients qui se sont attablés pour déjeuner. Et parmi les personnes qui déjeunent ici ce midi, il y a Hamida, qui est cadre en fait dans la société tunisienne d'électricité.
Vous venez déjeuner ici à quelle fréquence ?
2 fois par semaine.
Et pourquoi vous venez ici plus particulièrement ? Cela permet de soutenir l'association. Et puis c'est bon. Je sais qui cuisine. Les prix sont abordables aussi. Et c'est pas loin de là où je travaille. C'est pour toutes ces raisons-là.
Donc là, il y a les plats de Hamida qui commencent à arriver.
Allez, je vous laisse déjeuner. Bon appétit.
Alors là, je vais essayer d'aller voir un client. L'essentiel des clients sont des hommes. mais ils ont les yeux rivés vers un écran de télévision qui retransmet un match. Je vais essayer de les déranger en plein match. Donc là, je suis avec un autre client qui s'appelle Sadar, qui a 68 ans et qui attend son plat.
Mec, la khalq al-ad, ils font de la bonne bouffe.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre situation, où vous vivez, si vous travaillez, si vous avez travaillé?
Je préfère pas. Il vaut mieux pas.
Je pense que vous avez entendu, le monsieur que j'ai interviewé était très pudique, il n'a pas trop voulu en dire plus sur sa situation. Donc j'ai pas trop insisté parce que c'est évidemment très compliqué de s'épancher dans un restaurant où il y a quand même pas mal de clients autour de lui. On tâchera d'en savoir un peu plus ce soir parce que la particularité du Resto d'Amour, c'est qu'ils préparent aussi des plateaux repas à la nuit tombée et qu'ils font ensuite des maraudes auprès des SDF, des sans-abri de Tunis. Donc ça sera l'occasion d'en savoir plus sur les personnes auxquelles ils viennent en aide.
Voilà pour la vie du restaurant d'amour au déjeuner à Tunis. Mais à la nuit tombée, l'ambiance change. Avec l'argent collecté grâce aux clients qui laissent souvent plus que le montant indicatif des plats, eh bien, l'association est en mesure de financer donc des repas supplémentaires le soir. Amira Souelem s'est mêlée aux volontaires de l'association. Il se prépare à aller distribuer des repas dans les rues de Tunis.
Donc là, il est à peu près 19h30, je suis de retour au Resto d'Amour et il y a plusieurs volontaires, une petite dizaine je pense, qui sont en train de préparer des repas.
Je viens toutes les semaines faire ça. Et combien de plateaux repas vous allez préparer? 50, au moins 50. On fait attention à ce que les plats soient équilibrés. On met des protéines, des féculents, de la salade, des plats chauds comme à la maison.
Alors là, il est un peu plus de 21h. Les volontaires font sortir les plats. La distribution va commencer. Je suis en voiture avec Nizar et Hiba. Hiba, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on va? Quel est le parcours habituellement? Est-ce qu'il y a un parcours typique?
Généralement, c'est le même circuit depuis 10 ans. Donc on commence par Belvédère, après il y aura quelques cas à Lafayette peut-être, on peut ne pas trouver. Par la suite, on va aller à l'avenue Habib Bourguiba, donc je pense qu'il y aura une dizaine. Mais le chiffre exact, pour moi, on ne peut pas le discerner.
Nizar, vous pouvez me présenter la personne que nous avons en face de nous?
Voici Madame Layla, c'est notre chouchoute. Oui, la chouchoute de l'association, c'est notre préférée.
J'ai 50 ans. Je suis née en 1973. J'ai connu les volontaires de cette association en vendant des papiers mouchoirs dans la rue. Moi, je dors là-bas. Tu as vu là où les chiens sont en train d'aboyer?
Madame Layla, ça fait combien de temps que vous vivez là-bas?
Cela va faire 5 ou 6 ans.
Et combien de chiens dorment avec vous?
J'ai 8 ou 9 chiens avec moi.
Ce sont eux qui vous protègent, c'est cela?
Oui, bien sûr. Sans eux, je ne pourrais pas dormir ici.
Nizar, vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez aider Layla?
La première chose, si on veut lui trouver un logement, c'est qu'elle ait une carte d'identité. Sans cela, on ne peut rien faire. Donc, on essaye de trouver une solution à cette histoire de carte d'identité et ensuite, on pourra voir pour le logement, l'héberger dans un hôtel ou un studio ou autre.
J'ai rejoint une autre voiture, je suis avec un certain Mehdi avec qui je continue la maraude. Donc là nous sommes arrivés aux abords de la mosquée Al-Fath, c'est une des mosquées les plus connues de Tunis. Donc en bas de la mosquée on a une dame avec 1, 2, 3, 4, 5 chats si je compte bien.
Et la particularité de cette mosquée aussi, c'est qu'elle est juste en face d'une pharmacie de nuit, qui est donc bien éclairée, il y a du passage des clients à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est un endroit où en fait il y a du passage et du monde toute la nuit. Donc j'imagine que c'est pour ça que ces personnes se posent là la nuit, pour des raisons de sécurité sûrement.
Je m'appelle Hamida. Je ne suis pas toute jeune, j'ai plus de 50 ans. Je suis orpheline, je n'ai pas de famille. Avant, j'étais prise en charge par une association. Puis j'ai eu un accident. Je ne pouvais plus marcher, il me fallait de l'argent pour acheter des médicaments. L'association m'a d'abord prise en charge, puis on m'a dit qu'ils n'avaient plus les moyens de le faire. Et je me suis retrouvée à la rue. Cela fait 7 ou 8 ans que je suis à la rue. 7 ans, ce n'est pas simple pour une femme. On est sujette aux violences, c'est compliqué d'aller aux toilettes. Même aux toilettes, on nous poursuit et est violente. J'ai été victime d'une agression il y a quelques jours seulement. On m'a ouvert une partie de la tête, je me soigne jusqu'à maintenant. Mes chats me permettent d'avoir un peu de compagnie. Je les considère comme mes enfants.
Mehdi, dis-moi, il y a une chose que je n'ose pas trop aborder avec les personnes à la rue que l'on rencontre. C'est le sujet de leur famille, parce que je sens que c'est très sensible comme sujet. Toi qui les connais, est-ce que tu peux me dire où sont les familles de ces sans-abri ?
Moi-même, je ne sais pas. Je ne pose pas ces questions-là non plus. Je n'ai pas le droit de le faire. On est là pour tenter de les soulager, pas pour leur rappeler leur drame.
Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous éclaire et fleurisse votre chemin. Vous êtes formidables.
Il y a encore une petite dizaine de plateaux repas à distribuer et les volontaires ne s'arrêteront ce soir qu'une fois qu'ils auront tout distribué. Donc voilà, ils parcourent les rues de Tunis. Et la prochaine étape, ça va être les abords de grands hôpitaux tunisois où on trouve parfois des patients qui viennent de loin, des régions de Tunisie et qui n'ont pas les moyens de se loger le temps d'une nuit ou de quelques nuits à l'hôtel. Donc ce sont des personnes qui sont sans abri de façon ponctuelle, auxquelles les volontaires distribuent aussi des plateaux repas.
Reportage d'Amira Souhelem à Tunis, chez les exclus du logement et des solidarités familiales. Demain, 8 milliards de voisins, nous parlerons du couple. Avoir une passion dans la vie, ça peut être le sport, la musique, les jeux vidéo. Est-ce un problème dans votre couple ? Racontez-nous. Faut-il partager ses passions pour faire fonctionner le couple ou au contraire, faut-il conserver son espace personnel ? Mais dans ce cas, avec quel compromis ? Appelez-nous dès maintenant ou envoyez vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. C'est notre compte WhatsApp. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi. Et bien sûr, d'ici là, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast, quel que soit le moment qui vous est le plus propice. Et merci à l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac, Didier Cherouz. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur RFI et en direct, bien sûr.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.